Bonjour à toutes et tous. Juste un petit mot très rapide pour annoncer qu'on va faire un projet un petit peu particulier, une petite innovation cette année pour le 14 juillet. J'en parle plus en détail à la fin de l'épisode, mais vu que l'épisode est assez long, je voulais simplement dire un mot tout de suite pour dire qu'on va essayer cette année, donc la semaine prochaine, de faire un commentaire en direct avec le collimateur et avec certains des amis et habitués du podcast. Sur Twitter Space, c'est-à-dire pour essayer de proposer un commentaire alternatif à ce qui se fait sur les grandes chaînes de télévision. Donc voilà, tous les détails sont à la fin de l'épisode et puis on vous donne rendez-vous le 14 juillet sur Twitter Space. Et tout de suite, en attendant, une émission donc sur l'hypersonique avec David Pappalardo. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui pour parler de ce qu'on qualifie parfois d'armes révolutionnaires, de game changer stratégique, ou de changement majeur dans l'équilibre global de la dissuasion nucléaire, ce que ça n'est absolument pas dans les trois cas, disons-le tout de suite, c'est-à-dire des missiles hypersoniques, de leurs capacités réelles et de leurs limites. J'ai le plaisir de recevoir le colonel David Pappalardo de l'armée de l'air et de l'espace, que les auditeurs connaissent bien, parce que vous êtes venu à peu près dans tous les formats du collimateur depuis plusieurs années, encore récemment pour détailler avec nous ce film merveilleux qu'est le dernier Top Gun, Maverick. Et les auditeurs se souviendront d'ailleurs peut-être qu'on avait parlé rapidement au détour d'une phrase dans l'émission de faire une émission sur l'hypersonique, dont acte, parce que vous publiez très prochainement dans le prochain numéro de la revue Vortex, donc la revue du CESA, le Centre d'études stratégiques et aérospatiales, dont on a parlé déjà régulièrement, un article très intéressant intitulé « Hypersonique, entre rhétorique et réalité ». Et par ailleurs, je peux dire qu'on fait cette émission alors que l'article n'est pas encore paru, ce numéro de Vortex devrait paraître dans une quinzaine de jours, parce que je peux dire que vous partez bientôt vers d'autres horizons pour prendre des fonctions importantes à Washington, qui vont vous laisser un peu moins de temps et de loisirs pour venir raconter des bêtises et dire d'autres choses plus sérieuses au micro du collimateur, donc j'en profite tant que vous êtes encore à Paris. Donc bonjour et bienvenue à nouveau dans le collimateur.
Bonjour Alexandre.
Alors, c'est hypersonique. C'est évidemment un sujet tout à fait intéressant et important, tant pour les capacités réelles de ces armes, même si les auditeurs vont voir qu'on va bien tempérer et nuancer ce que ça donne, en tout cas à l'heure actuelle, mais aussi parce que ça dit, je crois, quelque chose d'assez captivant, de la manière dont l'intérêt public se porte sur certains objets militaires, notamment il y a quelques mois, quand la Russie avait annoncé avoir tiré un missile hypersonique, alors elle était gros guillemets déjà tout de suite dans cette affaire particulière, mais c'était donc en mars, le désormais fameux missile Kinzhal, sur un dépôt de munitions ukrainien. Alors, on en reparlera de cette affaire, parce qu'elle est intéressante au-delà du plan purement capacitaire, et elle dit quelque chose de l'utilisation réelle de l'hypersonique, qui est peut-être autant médiatique que militaire, pour l'instant en tout cas, mais il faut quand même commencer par rentrer dans le fond de cette affaire, du point de vue militaire, et creuser cette question technologique que sont les projectiles hypersoniques. Alors, première question hyper simple, David Pappalardo, qu'est-ce que ça veut dire un objet hypersonique ?
Alors, merci de poser cette question qui est essentielle, puisque une des problématiques est liée justement à la sémantique. De quoi parle-t-on dès lors qu'on qualifie un engin, qu'il soit un planeur ou un missile, d'hypersonique ? Alors, c'est là où il est important de casser en fait trois idées reçues. La première idée reçue, avant de répondre spécifiquement à votre question, c'est que ces armes sont révolutionnaires, vous l'avez évoqué dans votre introduction, et elles rabattent les clés de la sécurité mondiale, comme les Échos le titraient en début d'année. Bon, première idée reçue. Deuxième idée reçue, elles sont nécessairement dangereuses et donc il faudrait les interdire. Et troisième idée reçue, elles prolifèrent grandement, ce qui, là encore, est source d'instabilité. Alors il faut d'abord préciser la sémantique, vous l'avez mentionné, dès lors qu'on parle d'hypersonique, tout le buzz et le techno-folklore qui gravite autour de cela n'est pas tant lié à la vitesse, puisqu'on verra que ça ce n'est pas nouveau, mais qu'il y a la capacité à manœuvrer à très grande vitesse, entendre au-delà de 5 fois la vitesse du son, Mach 5, manœuvrer à cette vitesse dans les hautes couches de l'atmosphère, globalement entre une vingtaine de kilomètres d'altitude et 60 kilomètres d'altitude. Donc on n'est bien pas dans l'espace, on est en dessous de ce qu'on appelle la limite de Kármán, c'est-à-dire ces 100 kilomètres d'altitude, et le fait d'être dans l'atmosphère, c'est ce qui lui permet de convertir la vitesse en énergie et en manœuvre pour manœuvrer.
Alors, restons juste encore une seconde. Donc, hypersonique, c'est au-dessus de Mach 5, vous l'avez dit. Mach 5, je vais le dire, voilà, c'est à peu près 6000 km/h, c'est compliqué parce que Mach, c'est donc la vitesse du son, et la vitesse du son dépend de l'altitude parce que ça dépend de la densité de l'air. Enfin bon, peu importe. Ordre d'idée, 6000 km/h. Vous l'avez dit, c'est pas nouveau, il y a déjà des objets qui vont à cette vitesse-là. Quel type d'objet et depuis quand ?
Alors, effectivement, ce n'est pas nouveau. Les missiles balistiques, en particulier les missiles balistiques à portée intercontinentale, mais pas uniquement ceux-là, sont déjà hypersoniques depuis qu'ils existent, avec les premières apparitions dans les années 50. Ces vitesses, elles peuvent atteindre largement Mach 20 dès lors qu'on parle de missiles à portée intercontinentale, c'est-à-dire dont la portée excède 5500 km. En revanche, ces objets... Et puis, alors, avant de parler de la nouveauté, il y a également les engins spatiaux, qui évidemment, au-delà de la vitesse de mise en orbite d'environ 8 km seconde, eh bien forcément, les objets spatiaux, au-delà de ces 100 km, ils sont nécessairement hypersoniques dans le référentiel terrestre. Mais en revanche, ces objets, que ce soit les premiers mentionnés comme les seconds, ils sont prédictibles. Leur trajectoire est prédictible. Un missile balistique, à partir du moment où vous le tirez, eh bien, il suit les lois physiques qui sont immuables. Dès que vous le détectez, vous connaissez son point d'origine. Et donc, vous pouvez attribuer l'attaque, si dès lors on parle de choses militaires. Et vous connaissez également son point d'arrivée, son point d'impact. Ce sont les lois keplériennes, les lois physiques, et les trajectoires sont particulièrement prédictibles.
Donc, en gros, c'est la gravité, c'est les lois de l'attraction terrestre. Donc, globalement, ce n'est pas extrêmement compliqué à voir, à intercepter. Enfin, alors, intercepter, on en reparlera, mais en tout cas, bon, c'est vraiment purement un satellite.
Alors c'est un missile balistique, et il faut insister absolument sur le côté prédictible de sa trajectoire. Dès lors qu'il est détecté, je sais où est-ce qu'il va impacter.
Et une des raisons pour lesquelles ça va si vite, c'est évidemment que ça va très haut, et que donc ça s'affranchit en quelque sorte de la friction de l'atmosphère, donc c'est pour ça que ça peut aller si vite, que ça peut atteindre des vitesses de l'ordre de Mach 20, quoi.
Exactement. Alors, il y a déjà des défis technologiques pour tout ce qui est re-rentré dans l'atmosphère, mais je vais jeter un voile pudique là-dessus. Quoi qu'il arrive, ces engins, ils existent depuis extrêmement longtemps. En revanche, ce qui est...
Et juste, tout le monde sait en faire ?
Ah non, tout le monde ne sait pas en faire. Globalement, les grandes puissances nucléaires en sont capables. Évidemment, les États-Unis, d'abord, c'est apparu pendant la guerre froide avec les États-Unis, l'Union soviétique derrière, sachant que les Allemands avaient donné le la avec les premiers missiles V2, alors qui ont servi de base technologique pour construire ce qui s'est développé au cours des années 50, puis pendant la guerre froide. On a d'autres pays qui ont évidemment développé cette capacité, la France évidemment, la Chine et l'Inde. On a d'autres pays qui essaient. Alors là, je parle des portées intercontinentales du moins, hein, puisque les missiles balistiques, vous avez tout type de portée, et des missiles balistiques à courte portée, vous avez un grand nombre de pays qui sont capables de le faire. On a tous en tête les fameux missiles Scud, avec la chasse aux Scud pendant la guerre d'Irak, la première guerre du Golfe en 1991, mais vous avez toute une déclinaison de ces missiles qui existent. Ceux-là peuvent atteindre, selon les portées des vitesses également hypersoniques en phase transitoire, mais en revanche, là encore, ce sont des trajectoires extrêmement prédictives.
Donc, si je comprends bien, la difficulté, c'est d'être dans l'hypersonique. Donc, bon, on peut dire il y a le supersonique, donc c'est au-dessus de la vitesse du son, et à partir de Mach 5, on est en hypersonique. Donc, si je comprends bien, la difficulté, c'est d'être en hypersonique sans pour autant aller dans les couches très hautes de l'atmosphère, et donc rester voilà, vraiment en dessous d'une certaine altitude. Et l'enjeu, c'est de réussir à être hypersonique dans cette altitude-là.
Alors, le point clé, c'est surtout être capable de manœuvrer à des vitesses au-delà de Mach 5. Pourquoi Mach 5, pour qualifier passer de supersonique à hypersonique, on peut y répondre de deux façons. Tout simplement, on pourrait déjà dire que c'est tout simplement une convention. Ça serait un petit peu léger, un petit peu facile, parce qu'il y a quand même des nombreux verrous technologique dès lors qu'on passe vitesse Mach 5 pour tout ce qui est échauffement, maîtrise des matériaux, etc. Donc le point clé, c'est vraiment cette capacité à manœuvrer. Et pour pouvoir manœuvrer, on le fait dans l'atmosphère, dans la couche d'altitude que je vous ai mentionnée. Donc il y a finalement quatre éléments qui gravitent derrière tout ça. Le premier, c'est d'abord, une fois encore, j'insiste, utiliser cette vitesse, mais convertir cette vitesse en manœuvre. Premier point. Le deuxième point, il y a adopter un profil de vol qui est finalement moins exposé aux systèmes de détection et d'interception actuels sur lesquels on reviendra probablement au cours de l'émission. Le troisième point, c'est par la vitesse, ça va être sidérer l'adversaire. Là, on se focalise sur l'aspect vitesse plus manœuvrabilité également. Et enfin, c'est justement jouer sur l'imprévisibilité des trajectoires pour poser un dilemme à l'adversaire. Et là encore, je suis certain qu'on aura l'occasion d'y revenir pendant l'émission.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une incertitude sur qu'il y a un missile qui arrive, mais puisqu'il peut manœuvrer, on ne sait pas exactement où il va aller taper, parce que ça peut changer à la dernière, enfin en tout cas dans la dernière phase. Mais alors, justement... Restons là-dessus. À quoi ça sert? Quels sont, en tout cas, les intérêts précis que ça aurait? Alors, on mesure, vous en avez déjà parlé un petit peu, il s'agirait de contrer les défenses, les interceptions potentielles des missiles tels qu'on sait les faire pour l'instant, c'est-à-dire des missiles balistiques, c'est ça?
Alors, à quoi ça sert? Eh bien, un de mes arguments consiste à dire que les engins hypersoniques manœuvrants ne sont pas tant une révolution, mais vont permettre des progrès de manière incrémentale dans certaines fonctions établies et dans une logique de dialectique entre moyens offensifs et moyens défensifs. L'objectif, c'est de pénétrer des défenses ennemies qui sont de plus en plus robustes, de plus en plus complexes et intégrées. Et dès lors que la défense progresse, eh bien on doit pouvoir se couvrir contre ce risque afin de garantir la pénétrabilité des engins qui, eux, répondent à des fonctions offensives. Donc on a quatre grandes fonctions. La première grande fonction, ça va être tout simplement assurer la crédibilité de la dissuasion nucléaire pour les pays dotés. Ça, c'est essentiel. On pourra le développer tout à l'heure. La deuxième grande fonction...
Mais attendez, restons là-dessus une seconde, puisque la dimension nucléaire est quelque chose... On reparlera peut-être tout à l'heure du Kinjal russe, mais ça a été, en tout cas, un point de focalisation. Ça a été l'idée, voilà, un missile hypersonique, on ne peut pas l'intercepter. Et donc, c'est en quelque sorte l'assurance que si les Russes veulent nous lancer une bombe nucléaire sur la tête, ils peuvent le faire. Ça, on peut juste s'arrêter une seconde. Quiconque suit un peu les affaires, disons, stratégiques, sait que déjà, si les Russes veulent nous lancer une bombe nucléaire sur la tête, ils peuvent le faire. À moins que vous me détrompiez, il n'y a pas de moyen d'intercepter aujourd'hui une salve de missiles balistiques. Alors peut-être qu'on peut en intercepter un, mais s'il y a vraiment une attaque et qu'on balance plusieurs dizaines de bombes nucléaires sur une cible, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de moyen de les intercepter, déjà hypersonique ou pas hypersonique.
C'est effectivement là où il faut avoir le courage de la nuance, et c'était un de mes objectifs, de démêler les chevaux où s'entremêlent constamment rhétorique et réalité dès lors qu'on parle d'hypersonique. Effectivement, on n'a pas besoin d'hypersonique aujourd'hui et pour probablement les décennies à venir pour garantir la crédibilité de notre dissuasion nucléaire, que ce soit en particulier les États-Unis ou les Russes. Aujourd'hui, les systèmes de défense antimissiles actuels mis en œuvre par les États-Unis, par exemple, ne sont pas capables, ni conceptuellement ni techniquement, d'attaquer et de contrer une attaque saturante venant de la Russie. On n'a même pas besoin de parler d'hypersonique manœuvrant, puisque aujourd'hui, regardons par exemple l'architecture de défense antimissile américaine, exo-atmosphérique, c'est-à-dire qui arrêtent ces missiles dans l'espace. On a en tout et pour tout 44 missiles qui sont situés en Californie et en Alaska. Et on voit très bien que dans le cadre de la dissuasion, une attaque surpasserait largement ces défenses-là. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller vers l'hypersonique pour moderniser et garantir la crédibilité de la dissuasion nucléaire. Dès lors, quand le général américain, le général Miley, qui est le chef d'état-major américain, dit que nous sommes face à un moment Spoutnik lorsqu'il décrit le test mené par la Chine en août 2021 d'un objet spatial qui serait re-rentré dans l'atmosphère à des vitesses hypersoniques, eh bien forcément il l'exagère. Il joue sur le signalement et sur la rhétorique pour accentuer une menace. Et probablement dans une logique soit de captation de budget, soit tout simplement pour réveiller l'opinion publique et le Congrès américain. Mais on est vraiment dans la rhétorique, puisqu'il le sait très bien en son fort intérieur qu'aujourd'hui, la dissuasion nucléaire entre ces deux grands en particulier, je focalise un petit peu sur ces deux, mais on pourra élargir derrière, elle fonctionne largement sans parler d'hypersonique. Dès qu'on parle de dissuasion nucléaire, ce sont quoi ? Des capacités en particulier et un narratif, un message stratégique. Et ce qui est au cœur de la dissuasion nucléaire, c'est la notion de vulnérabilité mutuelle. C'est essentiel dès lors qu'on parle de dissuasion. La dissuasion entre les deux grands, au bout d'un moment, les deux pays ont accepté la notion de vulnérabilité mutuelle. Globalement, ça signifie quoi ? Ils savent que si une attaque est menée contre leur territoire, ils sont capables de répliquer et de vétrifier le pays assaillant de manière égale, avec des capacités soit de frappe en second, avec des capacités de frappe en second en particulier. Cela, ça existe toujours. Ça existe toujours, nonobstant les progrès vers les moyens hypersoniques manœuvrants.
Donc
il n'y a pas de révolution dans le domaine de la dissuasion nucléaire, qui est la première fonction établie sur laquelle j'ai répondu à votre question.
Donc, maintenant qu'on a établi que la dissuasion nucléaire, l'hypersonique, ne changeait rien, en tout cas à l'heure actuelle, on pourrait imaginer, en projetant, que peut-être un jour, il y aurait des moyens d'interception de missiles intercontinentaux balistiques beaucoup plus sophistiqués, et que là, l'hypersonique changerait les choses. Mais vous l'avez dit, on n'y est pas, et on n'y est pas encore pour plusieurs années, voire décennies.
On n'y est pas. Et c'est pour ça que dire que l'hypersonique peut être extrêmement déstabilisant dès lors qu'on parle de dissuasion nucléaire, là encore, on exagère, et on mélange rhétorique et réalité. On pourrait même soutenir l'argumentation inverse, qui pourrait dire, pour garantir, malgré tout, me couvrir contre les risques d'une montée en gamme des défenses antimissiles adverses, je vais quand même aller vers la modernisation hypersonique, l'utilisation des technologies hypersoniques pour garantir ma dissuasion nucléaire, et ça permettrait d'avoir une montée en gamme qualitative pour ne pas avoir à recourir à l'augmentation quantitative de mon arsenal. C'est par exemple la position que l'on suit en France avec le futur missile ASN4G qui sera développé en 2035. Et globalement, on dit la France qui veut respecter le principe de stricte suffisance, plutôt que de devoir multiplier mon nombre de têtes, je vais augmenter la pénétrabilité de mon arme, et donc je vais recourir à cette technologie. Donc on pourrait même avoir un effet stabilisant sur cette question.
Bon, on reviendra sur la dissuasion, parce que c'est évidemment une grande partie de l'équation à tous les niveaux. Mais donc, puisque c'est pas la dissuasion nucléaire que ça va changer, qu'est-ce que ça pourrait changer d'autre ? Quel serait l'intérêt opérationnel de missiles hypersoniques tels qu'on les a présentés ?
Alors il y a au moins trois autres fonctions. La première, et puis qui vont rester plutôt dans l'aspect conventionnel, voire dual pour certains pays qui mettent en œuvre des armements duaux comme la Chine et la Russie, on pourrait y revenir.
Les armements duaux, ça veut dire qu'on peut mettre une tête normale comme une tête nucléaire, ouais. Si c'est en fonction de ce qu'on a envie de faire à ce moment-là.
Mais en revanche, les deux fonctions que je vais décrire maintenant, on sort de la dialectique nucléaire stratégique, l'aspect dissuasion stratégique. Alors la première fonction, ça va consister à muscler, à durcir ce qu'on appelle les postures de déni d'accès. Alors qu'est-ce que c'est qu'une posture de déni d'accès ? C'est vraiment important qu'on s'arrête un petit peu là-dessus avant de rentrer dans le détail de l'hypersonique. Une posture de déni d'accès, elle est au service d'une stratégie qui répond elle-même d'une géographie, et elle a deux dimensions. On a une dimension défensive. Souvent d'ailleurs, dans la presse, même chez certains militaires, les postures de déni d'accès sont réduites à leur dimension défensive, incarnée par le fameux missile, le système de défense surface-air S-400 russe, par exemple, ou son équivalent chinois, qui est le HQ-9. Et puis toutes les panoplies, qui va de la courte portée à la très longue portée. Dans les capacités défensives, on pourrait également parler...
Donc déni d'accès, c'est juste dire... Voilà,
il
y a un avion, un porte-avions, etc. On peut défendre un périmètre contre tout ce qui y entrerait.
Exactement. Ça correspond à ça, mais plus que de l'interdire totalement, puisque là, ça serait plutôt augmenter les coûts d'entrée. C'est-à-dire augmenter les coûts d'entrée d'une puissance qui repose sur des capacités de projection de force, que ce soit du point de vue aérien ou d'un point de vue naval, qui a quand même été l'avantage comparatif notable des puissances occidentales ces 30 dernières années, au premier rang desquelles les États-Unis en particulier. Donc, on a ces capacités défensives.
Donc, pour l'appliquer concrètement, c'est on est capable de taper n'importe quel porte-avions américain qui serait pas loin de la mer de Chine du Sud.
Là, vous êtes déjà dans la deuxième dimension, Alexandre. La première dimension, c'est déjà l'aspect défensif. Donc, c'est des systèmes de défense solaire, par exemple. C'est du minage ou des batteries côtières. Mais on a également le deuxième volet qui est trop souvent oublié dans ces postures de déni d'accès, qui est ce volet offensif. C'est tout ce qui va rassembler les moyens missiles balistiques, missiles de croisière, munitions maraudeuses, etc., etc., qui vont tenir à distance une puissance qui voudrait projeter de la force, que ce soit par exemple un porte-avions dans le domaine naval, mais également dans le domaine de la puissance aérienne, puisque nos bases aériennes, qu'elles soient projetées en particulier, elles sont sous la menace permanente d'une puissance qui disposerait d'un arsenal balistique, croisière et autres extrêmement important. Donc, l'hypersonique, dans le domaine conventionnel, peut muscler cette dimension offensive de ces postures de déni d'accès. Et c'est très prégnant chez deux puissances en particulier, la Russie et la Chine, mais ce n'est pas exclusif, mais la Russie et la Chine, là où la géographie compte encore. Regardons par exemple, pour ne pas exclusivement focaliser sur la Russie, regardons l'exemple chinois. On sait que, depuis 1995 en particulier, où la Chine avait été traumatisée par le déploiement de l'administration Clinton de deux porte-avions lors de la crise des détroits de Taïwan, eh bien la Chine a absolument construit un outil militaire pour interdire, justement, pour éviter que ce genre de choses se reproduisent et repousser la puissance navale et la puissance aérienne américaine le plus loin possible. D'abord jusqu'à la première chaîne d'îles, globalement Taïwan, le nord des Philippines, etc., et puis jusqu'à la deuxième chaîne d'îles, avec les îles Marshall, Guam, et puis les îles Bonin. La Chine a cherché à augmenter la portée, mais également la létalité de ces systèmes, en particulier conventionnels, et a cherché à recourir aux technologies hypersoniques. Alors, comme toujours, dès lors qu'on parle de la Chine, c'est extrêmement opaque. On a tous en tête le fameux missile DF-17, qu'on pourra détailler, qui est un missile à portée, courte portée, voire moyenne portée, qui lui a une fonction anti-navire en particulier, mais également fonction anti-terrestre. Et donc, c'est justement dans cette logique-là, muscler ces postures de déni d'accès, que certaines puissances, comme la Chine dont on vient de citer l'exemple, essaient d'aller vers le chemin de l'hypersonique.
Parce qu'on peut le dire, mais un porte-avions, enfin, je pense que les auditeurs le savent, mais il n'y a pas jamais qu'un porte-avions. C'est un porte-avions et toute une batterie de navires autour pour défendre le porte-avions, précisément contre un éventuel missile qui serait lancé sur ce porte-avions. L'hypersonique, en l'occurrence, ça permettrait, si ça marche, de déjouer toutes les contre-mesures, tout ce que les navires autour du porte-avions pourraient faire pour le défendre.
C'est vrai, mais là aussi, attention entre rhétorique et réalité. C'est une chose de disposer d'un armement hypersonique type le DF-17 chinois, qui est avec un planeur qui est emporté à partir d'un missile balistique. C'est une chose de disposer de ce type de technologie, c'en est une autre, de pouvoir disposer de toute la chaîne de ciblage et de pouvoir désigner avec précision une cible qui bouge. Fût-il relativement lentement, un porte-avions, ça manœuvre, ça bouge. Un groupe aéronaval, c'est constitué de différentes entités. Donc là encore, même si effectivement c'est une menace assez forte pour les porte-avions, ça l'est également pour des bases aériennes qui sont, elles, des cibles fixes. Et la capacité de ciblage, l'architecture de ciblage et de renseignement qui sous-tend une véritable capacité contre une cible mobile, elle est extrêmement complexe à réaliser. Et autant on peut faire des démonstrations en conditions laboratoires aujourd'hui, on n'a pas vu ce que ça pourra donner en conditions réelles. Donc là, attention.
Si on reste appliqué à la Chine, par exemple, on mesure qu'un missile hypersonique pourrait avoir du mal quand même à taper un porte-avions qui manœuvre. En revanche, souvent, ce dont on parle, c'est la base américaine de Guam, qui, elle, a priori, va moins bouger que le porte-avions. Et pour le coup, même s'il y a évidemment des défenses, un missile hypersonique pourrait peut-être être plus adapté vu de l'enjeu du ciblage.
Alors effectivement, on n'a pas encore revenu sur la taxonomie des différents engins hypersoniques qui existent, mais les Chinois, sans même parler d'engins hypersoniques tels qu'on va les définir tout à l'heure, ont développé le fameux DF-21D qui permet, globalement, qui est un missile à courte portée, d'une portée d'environ 1400 km, qu'on a appelé le carrier killer, donc pour tueur de porte-avions littéralement. Et vous avez le DF-26 qui, elle, la portée est largement supérieure, aux alentours de 4000 km, et qu'on a qualifié de Guam killer. Effectivement, on voit très bien la logique de déni d'accès contre les capacités de projection de puissance américaine dans le Pacifique jusqu'à la seconde chaîne d'îles.
Alors, donc, première utilisation à dissuasion nucléaire, on lui a fait un sort. Deuxième utilisation, déni d'accès aussi. Et donc, les deux autres.
Alors, la troisième, Eh bien, à revers de ce qu'on vient de dire, ça peut être au contraire d'aller chercher à casser ces postures de déni d'accès. Pour casser ces postures de déni d'accès, j'ai besoin de moyens, de frappe dans la profondeur, pour aller cibler les constituants essentiels de ces postures de déni d'accès. En particulier, justement, nous en parlions, les systèmes de ciblage, les systèmes de renseignement, les systèmes de commandement et de contrôle, voire certains effecteurs hautement stratégiques, surtout s'ils sont conventionnels dans ce domaine-là. Alors c'est par exemple la logique américaine. La logique américaine va chercher, et dans une moindre mesure, mais la logique otanienne, qui va chercher à muscler ses capacités conventionnelles, j'insiste sur le conventionnel, de frappe dans la profondeur en les faisant monter en gamme et en utilisant les capacités hypersoniques. Ça peut être justement, par exemple, si on suit l'exemple américain, on se souvient en 2003 de ce qu'ils avaient cherché à faire avec la logique de Conventional Prompt Global Strike. L'idée maîtresse à l'époque, en 2003, c'était d'être capable de toucher n'importe quel point du globe avec des missiles balistiques, y compris à portée intercontinentale, équipés d'une charge conventionnelle pour aller justement détruire, casser ces postures de données d'accès. Alors, si vous...
Je crois que le truc, c'était une heure. On peut taper n'importe quel point du globe en moins d'une heure, ce qui veut dire que personne n'a le temps de se mettre en ordre de bataille. Quoi.
Donc là, on ne parlait pas d'hypersonique manœuvrant, on était simplement, avec des guillemets évidemment, dans l'utilisation de moyens balistiques classiques. Alors les Américains ont abandonné cette logique-là, ou plutôt l'ont mis en sommeil pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'était extrêmement onéreux pour un effet militaire qui était loin d'être garanti. Et la deuxième, à laquelle la France et ses alliés étaient particulièrement sensibles, c'est que ça envoyait un signal... particulièrement difficile à interpréter pour l'adversaire, puisque celui-ci n'était pas en mesure de dire s'agit-il d'une frappe conventionnelle comme les Américains, d'une charge conventionnelle comme les Américains le prétendent, ou d'une charge nucléaire. Et dès lors, on avait un dilemme d'interprétation, et donc c'était difficile de maîtriser une logique d'escalade nucléaire. On pouvait y rentrer sans qu'on en ait véritablement l'intention. Donc ça, c'était le véritable argument. Et donc, pour ces deux raisons, les Américains ont abandonné, largement poussés par les Alliés, cette logique de CPGS, de Conventional Prompt Global Strike. Néanmoins, aujourd'hui, enfin depuis quelques années, ils revisitent ce concept, justement à l'aune des développements en matière d'hypersonique. Mais pour éviter ce problème de mauvaise interprétation, donc c'est uniquement du conventionnel là encore, mais ils ne vont pas chercher ces portées intercontinentales. Ils vont rester dans les portées intermédiaires, et ça c'est notamment permis par la disparition du traité sur les forces nucléaires intermédiaires suite à la violation par la Russie avec le fameux missile SSC-8. Alors là,
on avait fait un podcast avec Philbertou là-dessus, sur le traité IMF. Mmh. Ah bon, d'une manière générale, c'est le fait que l'architecture de sécurité européenne...
est en plein délitement,
avec tous les traités qui liaient entre l'OTAN et la Russie, etc., tous ces traités-là sont un peu en train d'être laissés à l'abandon. Donc en fait, ça ouvre, du point de vue du droit international, il y a plein de fenêtres d'ouverture pour tester des trucs qu'on n'aurait pas trop eu le droit de tester avant, par exemple ça.
Exactement. Donc pour rester sur les Américains, on voit que c'est l'effort américain là-dessus. Chaque armée, donc chaque service en anglais, que ce soit l'US Army, l'US Air Force, l'US Navy, développe ses propres capacités pour aller pour avancer sur le chemin de l'hypersonique. Alors, si on veut en citer quelques-unes, l'US Army par exemple et l'US Navy développent en commun une tête planante. Pour l'US Army, à partir d'un lanceur terrestre, qu'on appelle le Dark Eagle, Long Range Hypersonic Weapon, qui devrait rentrer en service à partir de 2023, qui a quand même une portée de l'ordre de 2000 km. La Navy, de son côté, elle développe à partir de la même charge une capacité de frappe dans la profondeur conventionnelle. Ça devrait rentrer en service à partir des destroyers de classe Zumwalt à partir de 2023, pour les geeks et les connaisseurs, et également à partir des sous-marins de la classe Virginia à partir de 2028.
Donc ça, c'est vraiment frappe dans la profondeur, c'est l'idée que on peut... Par exemple, pour contrer du déni d'accès, on peut aller taper les centres névralgiques de l'adversaire de manière à peu près imparable, Si jamais le besoin s'en fait sentir et on n'est pas limité à ce qui est apparent, on peut directement aller taper le cerveau, en l'occurrence, plutôt que les batteries elles-mêmes, quoi.
Alors, effectivement, les Américains développent ça à cette fin, mais pas uniquement. Il y a effectivement cassé les éléments cruciaux des postures de déni d'accès adverses, en particulier dans l'éventualité d'un conflit dans le Pacifique. C'est quand même dans cet esprit qu'ils y pensent énormément face à la Chine. Mais il y a d'autres fonctions. C'est tout simplement, effectivement, créer de l'attrition dans certaines fonctions clés qui ne relèvent pas forcément des postures de déni d'accès chez l'adversaire. Créer des objectifs, détruire des objectifs à haute valeur ajoutée d'un point de vue militaire.
Et enfin, la quatrième et dernière utilisation possible.
Alors la quatrième utilité, eh bien, c'est tout simplement le signalement stratégique. Le signalement stratégique, c'est tout simplement nourrir, faire peur à l'adversaire, rentrer dans ce qui caractérise, la compétition émulatoire entre les grandes puissances. Je veux rester dans la course, je veux montrer que je maîtrise ces technologies qui sont extrêmement complexes, en particulier celles des superstatos qu'on n'a pas encore détaillées. Donc je vais montrer que je suis dans la course, et en plus je vais agiter le chiffon rouge pour faire peur à mes adversaires et les embarquer dans une dynamique qui pourrait être contraire à la stabilité stratégique. On aura l'occasion d'y revenir à la toute fin. Et c'est là l'enjeu où il faut absolument démêler les chevaux, où s'entremêlent la rhétorique liée à cette fonction signalement stratégique et la réalité de l'apport militaire et opérationnel que ces engins apportent. Bien sûr, ils apportent quelque chose, mais on est plus dans une évolution, dans des progrès incrémentaux, dans les trois premières fonctions établies que je viens de décrire, que d'une véritable révolution dans les affaires militaires telles qu'on a l'habitude de le décrire. Et on en voit l'exemple avec le Kinzhal. Si je peux en parler maintenant.
C'est très intéressant ce truc de Kinzhal, on peut le dire. Donc c'est, je crois que c'était le 19 mars que les Russes ont dit qu'ils avaient tapé un dépôt avec ce missile hypersonique. Et je peux dire, c'est assez étonnant, parce que c'est l'époque où j'allais pas mal à la télé pour commenter l'évolution des trucs des opérations en Ukraine, et c'était fascinant, quoi. Il y a eu une sorte d'hypnose collective par ce truc-là pendant, je sais pas, quelques jours, quoi, autour de l'idée que les Russes ont une nouvelle arme révolutionnaire, c'est incroyable, et est-ce que du coup on est à la portée des Russes? Enfin, bon, évidemment qu'on est à la portée des Russes, ça fait 60 ans qu'on est à la portée des Russes sans interruption, et c'est plutôt très bien comme ça, parce que c'est le principe de la dissuasion. Mais du coup, si on entre dans le détail, le Kinzhal, c'est pas particulièrement un missile hypersonique, on y reviendra. Ça changeait pas grand chose et ça coûtait très cher pour un résultat assez limité. Mais effectivement, du point de vue rhétorique et quasiment en termes de stature, la Russie a réussi on a presque envie d'appeler ça un coup médiatique, coup médiatico-stratégique, en se posant comme grande puissance, alors que l'intérêt et la nouveauté étaient limités, quoi.
Exactement, et c'est le problème du techno-folklore. Alors attention, je ne dis pas que les développements hypersoniques relèvent du techno-folklore, mais c'est la manière dont on peut l'utiliser, où là, il faut prendre garde entre deux écueils. Le premier, c'est justement embrasser sans discernement les développements vers les nouvelles technologies. Il y a un effet buzz qui confère une prime de viralité dès lors que j'utilise un mot hypersonique aujourd'hui. Hier, c'était intelligence artificielle avec le mythe autour des robots tueurs. Aujourd'hui, on voit poindre un autre buzzword avec le quantique. Il y a des véritables réalités et des apports possibles, mais il y a beaucoup de fantasmes qui sont véhiculés, et il faut avoir le courage de la nuance dès lors que on essaie de déchiffrer ce que l'on observe et les annonces des uns et des autres dans ces différents domaines. Pour revenir sur l'hypersonique, il n'y a pas que effectivement les Russes et le Kinzhal, on pense aux Nord-Coréens avec le salon autodéfense en octobre 2021 où ils avaient exposé...
C'est un peu leur Satori à eux.
Exactement, c'est leur sorte d'euro Satori à eux. Ils y avaient exposé un planeur qui est une sorte de copie du DF-17 chinois avec quelques nuances, mais on ne va pas rentrer dans les détails techniques ici. Et quelques semaines après, en janvier 2022, ils avaient annoncé avoir effectué des tests à partir d'engins hypersoniques sans préciser exactement de quoi il s'agissait. Et en fait, ils se sont arrêtés sur le mot hypersonique. Pourquoi ? Parce que ça a fait peur, parce que ça a conféré justement, là encore, une sorte de viralité, une prime de viralité à ces essais, alors qu'il faut rester prudent sur ce qu'ils ont réellement effectué.
Écoute, j'ai du bon, vas-y, monte le son. Fais pas d'illusions, mets-toi en condition. Qu'est-ce que tu attends? Ne perds pas de temps. Lève-toi, lâche-toi maintenant, faut que ça bounce. Casse-toi le mur du son, son, sans poser de questions. Guidé comme un aimant, mais toi je viens doucement. Passer le mur du son, son, le signe de mon nom. Je me place, efficace, suis ma direction.
Alors, maintenant, il faut peut-être entrer dans le détail. Je repoussais un peu la chose depuis le début, parce que je voulais pas tout de suite entrer dans des trucs trop techniques. Enfin, je voulais commencer par voir l'intérêt stratégique et tactique. Mais maintenant, il faut peut-être entrer dans le détail de ce qu'est donc un missile hypersonique, et plutôt les différents types de missiles hypersoniques. Faut, voilà, faire sauter le capot et regarder un peu à l'intérieur de la machine. Alors... Voilà, comme ça, allons-y comme ça. Qu'est-ce que, du point de vue technologique, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, un missile hypersonique? Et, accessoirement, du coup, pourquoi est-ce que c'est si compliqué à faire?
Alors, vous avez senti mon impatience pour définir un petit peu ces engins.
C'est très geek, enfin, c'est très, voilà, c'est très plaisant, dans, c'est très, on va rentrer dans très amusant, mais bon, il fallait quand même entrer un peu par la bande. Donc.
Absolument, alors vous l'aurez bien compris... Les efforts hypersoniques concernent les engins hypersoniques manœuvrant dans ces hautes couches de l'atmosphère en particulier. Généralement, on distingue deux grandes catégories. Les premiers qui ont fait le plus de bruit, ce sont les planeurs. Alors les planeurs, ils sont mis à poste à partir d'un missile balistique. Ce missile balistique, la plupart du temps, il est tiré depuis le sol, mais il peut être également tiré depuis un aéronef, on va y revenir tout à l'heure. Ou d'une frégate ou d'un sous-marin. Alors ces planeurs, ils sont profilés, il y a différents types de technologies, ils peuvent avoir une forme biconique ou une forme extrêmement profilée, très aérodynamique, avec un faux plat, voilà, j'emploie des termes pas très techniques pour qu'ils restent compréhensibles, et globalement ils vont éventuellement passer une partie au-dessus de la limite de Kármán, donc dans l'espace, et puis ensuite ils vont être mis à poste, et ils vont rebondir, entre guillemets, dans les couches de l'atmosphère, globalement entre 30 et 60 km, à des vitesses qui sont relativement élevées. Donc si je parle en kilomètres secondes, ça fait entre 2 km secondes et, 3, 4, 5 km secondes. Donc on est en Mach cette fois-ci, au-delà des Mach 8, ça va entre Mach 8 et Mach 20. Et ils vont rebondir sur ces couches de l'atmosphère en utilisant leur propre aérodynamique. Mais ils ne sont pas propulsés. Ils ne sont pas propulsés, ça veut dire qu'on va voir apparaître une sorte de dilemme entre la portée et puis la réserve d'énergie qu'ils vont avoir en phase finale.
Alors juste comment ils rebondissent ?
Enfin, je sais. Et bien justement, comme ils sont dans l'atmosphère et pas dans l'espace, eh bien il y a une sorte de matelas d'air sur lequel ils peuvent rebondir de par leur aérodynamique, comme le ferait un avion, avec leur profil.
Mais ça se fait parfaitement, automatiquement, physiquement, ou il y a quand même quelqu'un qui le pilote ?
Alors ce n'est pas piloté. Ce n'est pas piloté à distance. En revanche, on a tout un mécanisme de gouverne qui permet de gérer la trajectoire de cet engin-là en fonction de l'effet militaire recherché. Et c'est là où j'en reviens à mon dilemme. Soit vous les cherchez de la portée maximale. Eh bien, dans ces cas-là, il va falloir faire plusieurs rebonds. Autant à l'issue du premier rebond, il va avoir une énergie. C'est-à-dire une énergie, c'est une vitesse. Suffisamment élevé pour pouvoir défaire un système de défense antimissile de points en phase finale. En revanche, si vous allez chercher plusieurs rebonds, vu qu'il n'est pas propulsé, forcément il va dégrader. Et donc, autant
À chaque rebond,
il va perdre de la vitesse. À chaque manœuvre, vu qu'il n'est pas propulsé, il perd de la vitesse. Donc, si vous le faites extrêmement manœuvrer, au bout d'un moment, forcément, son énergie va diminuer. Et dès lors, vous le rendez potentiellement vulnérable à un système de défense antimissile. Donc, il y a un compromis, dès lors qu'on développe ce type de technologie, adopter.
Parce que plus il est lent, plus le système de défense antimissile
pourra être performant. Ouais. Effectivement. Donc ça, ce sont les planeurs.
Et après, en phase finale, il manœuvre. Comment il manœuvre ? C'est tout bête, mais est-ce que là, il est piloté ou est-ce que c'est pareil, c'est un truc préétabli, une trajectoire préétablie et automatisée ?
Alors, ce sont des trajectoires qui sont préétablies, qui sont extrêmement sensibles, extrêmement classifiées, ne serait-ce que le facteur de charge que ces systèmes, ces engins peuvent prendre, puisque justement, eh bien là, c'est dans la dialectique moyen-offensif, moyen-défensif. Un des premiers éléments, c'est le renseignement. Selon l'objectif que je dois cibler, quelle est la nature des systèmes de défense adverses ? Qu'est-ce que je connais de leurs capacités techniques ? Et donc, qu'est-ce que j'entrevois comme manœuvre la plus efficace pour pouvoir les contrer ?
Et dès lors, quel type de zigzag manœuvre, etc.
Et dès lors, je vais pouvoir les préprogrammer pour pouvoir justement m'en affranchir et faire prévaloir le glaive contre le bouclier.
Et ces trucs-là, enfin ces planeurs-là, n'ont pas même un petit boost à la fin pour faire deux, trois manœuvres supplémentaires s'il y a besoin ?
Pas ces engins-là. On est vraiment dans des engins. C'est un planeur, comme son nom l'indique. Ils ne sont pas propulsés. Alors, vous avez différents types de pays qui se sont lancés dans le développement des planeurs. On a tous en tête la Russie avec l'Avant-Garde qui serait en service officiellement, mais là encore, où est-ce qu'on est dans la rhétorique ou dans la réalité, depuis la fin 2019, tiré à partir d'un missile balistique qui s'appelle le Stiletto, et qui demain pourrait être mis en place à partir du fameux Sarmat, lorsque Luffy sera en service à partir de 2025. Donc ça, c'est l'Avant-Garde. Vous avez donc il est plutôt, lui, pour la dissuasion russe, nucléaire, j'entends. Vous avez également les Chinois avec le DF-17 qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, qui est plutôt dans la charge conventionnelle, mais qui pourrait avoir une vocation duale et qui est plus sur des courtes et moyennes portées. Les planeurs, les Américains, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le Dark Eagle de l'US Army et puis le moyen tiré à partir des sous-marins et des destroyers américains. Et puis vous avez la France qui développe, alors on est toujours dans la recherche et technologique, mais le VMAX, alors là on n'est pas dans un programme d'armement, mais bien dans un programme de R&D, recherche et développement, recherche et technologique. On développe des briques techno pour un usage qui n'est pas encore défini et sur lesquels les armées, la direction générale de l'armement et les différents services réfléchissent. Mais cet engin, ce prototype, il doit voler dès la fin de cette année. Donc on voit qu'il y a plusieurs pays qui développent ces types de planeurs. J'ai pas été exhaustif, je pourrais parler du Japon et d'autres pays.
Mais on parlera peut-être du Japon, parce que c'est intéressant la manière dont le Japon s'empare de l'hypersonique pour un pays comme ça. Ouais. Mais alors, donc ça, c'est les planeurs. D'ailleurs, c'est amusant, parce que c'est... Enfin, je sais pas, moi, les planeurs, je trouve qu'il y a un imaginaire très pacifique, très doux, il n'y a pas de bruit de moteur, etc. Et imaginez que c'est un planeur qui porte potentiellement une tête nucléaire, il y a une sorte de décalage un peu perturbant.
Effectivement.
Donc ça, c'est la première grande famille, ces planeurs si paisibles.
Donc ces fameux planeurs, pas si paisibles que ça, en anglais, Hypersonic Light Vehicle ou HGV. Vous avez une deuxième catégorie à côté, que sont les missiles de croisière équipés d'un super statoréacteur, les missiles de croisière dit hypersonique, là encore en très bon français, Hypersonic Cruise Missile ou HCM. La technologie est extrêmement complexe, puisqu'un superstato, globalement c'est un statoréacteur dans lequel l'écoulement est supersonique à l'intérieur, et globalement certains ingénieurs...
C'est quoi un statoréacteur ?
Un statoréacteur, comme son nom l'indique, il n'y a pas de pièce qui tourne à l'intérieur. Donc vous allez avoir une arrivée d'air dans une chambre de combustion, donc qui va s'écouler dans un dispositif où l'air va s'accélérer, se compresser, s'accélérer, puis s'accélérer. Vous allez ensuite donc faire brûler du carburant et avoir un gain de poussée. Et la caractéristique, c'est plus on gagne en vitesse, plus la poussée augmente, jusque dans une certaine mesure. La technologie est extrêmement complexe, puisque la meilleure image que je puisse vous donner, c'est celle qui avait été donnée par un ingénieur qui s'appelait Critch, qui dit globalement, maîtriser cette technologie, ça consiste à maintenir allumée une allumette pendant plusieurs minutes en plein milieu d'un ouragan. Donc c'est extrêmement complexe, et il y a peu de pays qui maîtrisent cette technologie. Si vous vous souvenez mon introduction avec les idées reçues que j'essaie, contre lesquelles j'essaie de me battre, eh bien justement, parler de prolifération avec ces missiles de croisière superstato hypersoniques, on en est extrêmement loin. Il n'y a que quelques puissances et sur lesquelles je pourrais revenir.
Donc super statoréacteur, c'est comme un statoréacteur qui est déjà pas facile à faire, sauf qu'on est en hypersonique.
Voilà. Et à l'intérieur, l'écoulement du flux aérodynamique est supersonique, ce qui confère, ce qui donne des capacités pour atteindre, pour l'engin qu'il supporte, des vitesses dites hypersoniques.
Mais donc ça, on mesure que l'avantage, c'est que cette fois, il n'y a plus besoin d'aller taper des rebonds, etc. On peut rester plus bas, disons plus proche du sol. On est aussi potentiellement plus manœuvrant puisqu'on perd moins de vitesse à chaque rebond.
Alors, chaque solution, que ce soit planeur ou ces missiles de croisière hypersoniques, ont leurs avantages et leurs inconvénients. Un missile de croisière hypersonique, il porte moins loin et il va un tout petit peu moins vite. On est plutôt dans des vitesses entre 1,5 et 2 km par seconde, donc globalement, la Mach maximale atteint de l'ordre de Mach 8, donc c'est inférieur à ce que pourrait atteindre un planeur. En revanche, il va pousser pendant toute la durée de son vol, ce qui va lui permettre d'avoir une grande réserve d'énergie également pour manœuvrer, y compris en phase finale, et pouvoir contrer des défenses surfacières, comme le ferait un planeur, mais avec cette capacité de surcroît de pousser, on va dire. Donc il va moins vite, il porte un tout petit peu moins loin.
Pareil, il n'est pas piloté.
Non, il y a toujours des trajectoires qui sont préprogrammées avec les mêmes raisons que celles que je vous ai détaillées tout à l'heure. Il vole légèrement, je dis vole avec des guillemets, il vole légèrement moins bas qu'un planeur. Ce qui fait...
Moins bas
Plus bas, pardon, plus bas qu'un planeur. Ce qui fait dire que quand vous lisez certaines rubriques non spécialistes, vous pouvez entendre parler de d'engins qui volent en basse altitude. Alors, les gens traduisent basse altitude par l'image qu'ils se font d'un avion qui vole à basse altitude à quelques centaines de mètres au-dessus du sol. Alors, on n'en est pas là. Quand on dit à basse altitude, on reste dans les hautes couches de l'atmosphère et on est de l'ordre de 15-20 km d'altitude.
Même avec des bonnes jumelles, on ne va pas le voir passer.
Voilà, exactement. Et toujours pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il faut suffisamment d'air pour pouvoir justement s'appuyer dessus et pouvoir manœuvrer, et pour pouvoir nourrir ce super statoréacteur. Et il n'en faut pas trop pour éviter que cet engin manœuvre. Donc cette tranche d'altitude,
pour qu'il n'y ait pas trop de friction et que ça ne ralentisse pas trop.
Ouais. Alors, voler un peu plus bas que le planeur, mais c'était également vrai sur le planeur, eh bien c'est une difficulté supplémentaire par rapport aux architectures de défense surfacère, puisque aujourd'hui, les architectures de défense surfacère, on a parlé des Américains qui sont parmi les seuls pays à en avoir une relativement robuste, elles ne sont pas du tout adaptées pour contrer ces tranches, enfin des engins qui volent dans cette tranche d'altitude. Elles vont être adaptées pour voir un engin qui provient de l'espace. Les missiles balistiques qui passent avec des apogées extrêmement élevées, on a une alerte avancée qui est absolument taillée contre ce type d'engin, mais pas contre que ce soit des planeurs ou des missiles de croisière qui volent dans cette tranche d'altitude. Donc tout l'effort américain ou otanien va consister à justement développer une architecture de détection, de renseignement, de cible, qui permet de détecter d'abord, parce que je ne peux pas dissuader si je ne vois pas. Donc d'abord, je dois être en mesure de les détecter et ensuite éventuellement de les intercepter. Donc revenons un petit peu à mes HCM, Hypersonic Cruise Missile. Là encore, vous avez quelques pays qui en développent. Alors avant de parler des Américains ou des Russes, je voudrais parler de la France, parce que je vous ai parlé du programme ASN4G qui va rentrer en service en 2035 pour la composante nucléaire aéroportée au service de la dissuasion nucléaire donc française. Il faut savoir que la France a un véritable savoir-faire dans le domaine des statoréacteurs, déjà. Le premier brevet d'un statoréacteur, c'est un Français, c'est Le Duc. S'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale, les premiers statoréacteurs auraient volé avant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il avait déposé son brevet, je crois que c'était dans les années 1940 ou 1939. Donc, la guerre ayant une fois terminée, eh bien, il a pu effectuer ses premiers vols à l'issue. Donc c'est la France qui a été extrêmement pionnière en matière de statoréacteurs. Alors après, évidemment, les Américains, à marche forcée, on rattrapait tout ça dans le domaine des grandes vitesses, mais pas forcément grâce aux technologies des statoréacteurs. En revanche, en France, notamment portée par la dissuasion nucléaire, on a un véritable savoir-faire qui s'est construit, avec MBDA pour nos industriels, mais également de tout ce qui est nos entités étatiques, eh bien on pense à l'ONERA, qui a un véritable savoir-faire. Et dès lors, c'est assez naturel que la France se retourne vers l'incrément supplémentaire que sont les superstatos avec MBDA, là où Ariane Group, au contraire, est très fort dans d'autres types de technologies, notamment, bien justement, c'est à eux qu'on va confier le développement sur de recherche et technologie sur les planeurs, et pas du tout pour la dissuasion nucléaire. Mais, ou en tout cas, il n'y a pas de bijection nécessaire entre dissuasion nucléaire et hypervélocité en France à ce stade. En revanche, je reviens sur mon super stato. Là, oui, à SN4G, on est bien sans ambiguïté sur une notion pour la dissuasion nucléaire. Donc, on a un véritable savoir-faire. Voilà pour la France. On a d'autres pays qui développent les super stato, les Russes. Et force est de constater que les Russes sont extrêmement en avance. On pense aux missiles Tsirkon, qui a là encore une vocation première anti-navire, mais également des missions d'attaque contre des cibles terrestres. Bah, le Tsirkon, globalement, ça risque d'être le premier engin superstato à rentrer en service au monde. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien être conscient de cela, il n'y a pas de missiles de croisière hypersonique à superstato réacteur en service. Il n'y en a pas. Je vous ai dit, France 2035, et la Russie est sur le point, avec beaucoup d'avance par rapport aux estimations, je dis ça évidemment en source ouverte par rapport à ce que l'OTAN avait estimé, beaucoup d'avance sur ces estimations. On estime que d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, eh bien le Tsirkon, il y a eu plusieurs campagnes d'essais effectuées, que ce soit depuis des frégates sur l'amiral Gorshkov ou des sous-marins, le Severodonbinsk, plusieurs essais qui ont été effectués en 2021 et en 2022 et des succès qui ont été des succès. Donc ça devrait rentrer en service.
Et nous-mêmes, on a pu voir que c'était, enfin, on a regardé ça et on a pu voir que c'était des succès. C'est-à-dire, c'est pas que de la rhétorique russe.
Là, on n'est pas que dans la rhétorique, justement. On est vraiment dans cet aspect-là. Et vous avez d'autres pays qui essaient de monter en gamme là-dessus, premier rang desquels les États-Unis, qui étaient en retard dans le domaine des superstatos, des statos même, de manière générale, et qui, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure des programmes de l'USAF,
l'US Air Force, l'armée de l'air américaine,
et qui avance sur un démonstrateur qui s'appelle le HAWC, Hypersonic Air Breathing Weapon Concept, un contrat qui est confié à Lockheed Martin et Raytheon et qui doit aboutir à un plan de forme missile, donc globalement une forme missile avec une chambre superstato qui va bien, et ensuite se traduire en véritable programme d'armement avec un missile qui s'appelle le HACM, Hypersonic Attack Cruise Missile, qui devrait lui rentrer en service d'ici la fin de la décennie pour un usage conventionnel uniquement. Et j'insiste bien sur cet usage conventionnel uniquement. Donc voilà pour ces missiles à superstato.
C'est intéressant parce que c'est à front renversé. En France, les planeurs, c'est conventionnel, et les superstato réacteurs, c'est la dissuasion. Et aux États-Unis, c'est plutôt l'inverse. Les planeurs, c'est la dissuasion, et les superstato, c'est plutôt conventionnel.
Alors deux remarques par rapport à ce que vous venez de dire. La première, c'est que c'est pas tout à fait à front renversé, dans le sens où en France, autant je vous ai dit, il n'y a pas de bijection entre hypersonique et dissuasion nucléaire. Autant, pour l'aspect superstato, on n'entrevoit pas de développement conventionnel d'un superstato à ce stade pour un usage conventionnel. Pour le planeur, on n'a pas dit planeur égale conventionnel. Planeur, on n'est pas dans du programme d'armement. Autant la SN4G est un programme d'armement fait pour la dissuasion nucléaire, autant le programme VMAX rentre dans le cadre d'une feuille de route hypersonique et d'un projet qui s'appelle DEFI, où globalement on est sur des briques techno, et on ne sait pas quel sera l'usage. On réfléchit aujourd'hui à quel peut être l'usage de notre planeur hypersonique demain, si d'aventure la France suit cette piste pour un usage militaire. Ça peut être conventionnel, ça peut être nucléaire, rien n'est défini en ce stade, et ça a pu être dit publiquement par des responsables de la Direction Générale pour l'Armement qui travaillent avec ardeur là-dessus. Et ça implique tous nos industriels, MBDA, évidemment, Ariane Group, et également l'ONERA, comme je l'ai mentionné, pour ne citer que. Ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième remarque, Vous avez raison, elle est très, très intéressante d'un point de vue la composante nucléaire aéroportée. France et États-Unis n'ont pas fait du tout le même choix. Nous, on va vers la capacité de manœuvre à très grande vitesse, c'est ça l'hypersonique, capacité de manœuvre à très grande vitesse pour pouvoir s'affranchir des défenses adverses. Eh bien, les Américains, avec le programme qui s'appelle le LRSO, Long Range Standoff Weapon, eh bien, c'est pas un armement hypersonique, c'est même pas un armement supersonique, c'est un armement subsonique, un missile de croisière subsonique, qui ne va, pour garantir la pénétrabilité face à des défenses, va pas jouer sur la vitesse, va pas jouer sur la manœuvrabilité à grande vitesse, mais va jouer sur la furtivité, avec des briques passives et des briques actives. Vous vous souvenez, nous en avions parlé lors de l'épisode sur le F-35, il y a différents types de technologies qui permettent de rendre un objet furtif. Et furtif ne veut pas dire indétectable, mais en tout cas qui veut dire repousser le moment où je le détecte et donc ne pas être en mesure de l'intercepter. Donc on voit des choix technologiques différents qui peuvent s'expliquer par plein d'arguments, tout simplement un savoir-faire technologique. Je vous l'ai dit, la France a une longue tradition dans le domaine des superstatos, par exemple, et dès lors on capitalise dans ces domaines-là, là où on est peut-être un petit peu moins fort, notamment en particulier vis-à-vis des Américains dans le domaine de la guerre électronique de la furtivité active. Donc ce sont deux choix technologiques différents qui répondent à un même objectif, pénétrer les défenses adverses et garantir la crédibilité de notre dissuasion nucléaire pour ce qui nous concerne ici, la partie aéroportée, mais avec des choix différents une fois encore.
Et enfin, c'est pas un troisième volet de l'hypersonique, mais c'est quand même un truc dont il faut peut-être dire un mot, c'est les véhicules de réentrée hypersonique. Alors ça, c'est pas une nouvelle technologie, c'est pas un front, mais c'est sur une base de missiles balistiques, donc ce qu'on sait faire déjà depuis des décennies, de présenter en quelque sorte une dernière phase qui serait une capacité manœuvrante sur le tout dernier segment, une capacité manœuvrante hypersonique à toute fin. Donc ça, on n'invente pas un nouveau truc, c'est simplement on rajoute un segment, on perfectionne le dernier segment qui serait plus ou moins hypersonique.
Alors, effectivement, Alexandre, vous avez bien raison. Au-delà de ces deux grandes catégories, il y a ce qu'on peut appeler des objets hybrides qu'on va qualifier d'hypersoniques, parce qu'ils ont des capacités manœuvrantes ou pas. Et puisque vous m'y invitez, on va commencer par les premiers, que sont donc les fameux FOBs, qui sont des engins qui vont être mis en poste sur des orbites basses. Donc dans l'espace, là, on est au-dessus de la fameuse limite des Kármán, au-dessus des 100 km, parfois plusieurs centaines de kilomètres. On va mettre un objet en orbite basse, et puis on va le faire fondre sur sa cible, rentrer dans l'atmosphère et fondre sur sa cible pour créer un effet militaire, que ce soit au service de la dissuasion nucléaire ou autre chose. C'est ce qu'on appelle les FOS, les objets à fragmentation d'orbite. Vous avez raison, c'est pas nouveau. Les soviétiques, à l'époque, avaient été les premiers à chercher à en développer, notamment en 1968, ils avaient testé ces premiers FOBs. Ils l'avaient finalement abandonné, puisque globalement, il y avait des fortes limitations sur la charge utile que ces engins pouvaient amener derrière, et puis la difficulté ensuite à les faire rentrer dans l'atmosphère pour créer l'effet militaire voulu. Et puis il y a eu juste avant, parallèlement plutôt, le traité sur l'espace en 1967. Alors il faut savoir que les FOBs, de même qu'un missile balistique qui passe par l'espace, ne contreviennent pas, en tout cas dans la lettre, à ce traité sur l'espace, puisqu'ils ne font que transiter. Ils ne font que transiter dans l'espace. Donc juridiquement, ce ne sont pas des objets spatiaux. Et un objet à fragmentation d'orbite, Le mot qui va bien à l'intérieur, c'est fragmentation. Il ne fait pas une orbite complète. Dès lors, il ne fait qu'y transiter, donc il ne contrevient pas au traité de l'espace. Donc ce n'est pas ce traité qui a pu empêcher les développements technologiques, c'est bien plutôt un intérêt militaire et des développements technologiques. Alors pourquoi est-ce que les FOBs sont revenus sur le devant de l'actualité récemment? On l'a très brièvement évoqué en introduction. C'est suite aux tests menés par les Chinois en août 2021, où les Américains donc, ont accusé Pékin d'avoir testé un engin de ce type avec une charge manœuvrante type planeur, donc capable d'atteindre des vitesses hypersoniques lors de sa rentrée dans l'atmosphère. La combinaison des deux a fait dire, donc que ce soit au général Maillet ou au général Eitan, qui était à l'époque numéro 2 des armées américaines, que nous étions là face à un moment Spoutnik, globalement en écho au lancement par les soviétiques en 1957 du satellite Spoutnik. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un moment Spoutnik ? C'est que, globalement, ce qu'ils ont laissé entendre, et c'est là où, dans leur narratif, c'était relativement dangereux, eh bien, la notion de vulnérabilité mutuelle, qui est au cœur de la dissuasion entre grands, entre guillemets, eh bien, elle était remise en cause. Et que les Chinois pouvaient mener une frappe décapitante sur les moyens de dissuasion américains de niveau stratégique, et que, dès lors, eh bien, c'était extrêmement déstabilisant. Alors, il faut voir deux choses. Là aussi, on est dans la rhétorique et un petit peu dans l'emphase, dans l'hyperbole, si vous me permettez ce jeu de mots, puisque très rapidement, le secrétaire à la défense américain Lloyd Austin est un petit peu revenu sur les propos de ce chef d'état-major en disant que non, évidemment, la dissuasion américaine, elle n'était pas remise en cause par ce test-là, confère ce qu'on a évoqué en début d'émission. Et deux, on ne sait pas encore avec certitude de quoi s'agissait-il avec ce test. Évidemment, Pékin a démenti en disant qu'il s'agissait tout simplement d'un test d'un véhicule spatial réutilisable. On peut émettre quelques doutes sur cette réponse chinoise, mais aujourd'hui, on ne sait pas avec certitude ce qu'ils ont réellement testé. Et quand bien même ils auraient testé un FOBS, eh bien, il ne faut pas oublier deux choses, et j'insiste dessus. Un, les FOBS... par rapport à d'autres types de technologies, ont quand même pas mal d'inconvénients. D'abord, vu qu'ils restent sur des orbites basses, donc qui sont extrêmement prédictibles, eh bien, ils sont vulnérables à des systèmes de défense exo-atmosphériques. C'est extrêmement prédictible, donc je suis capable de calculer un point d'interception, même si c'est technologiquement très difficile, et donc de les détruire.
C'est-à-dire avant le dernier segment, avant le moment
sur la phase de vol intermédiaire,
où là, ils sont hyper durs à choper, sur tout le moment où ils agissent comme un missile balistique, mais on peut les intercepter comme un missile balistique.
Exactement. Sans compter qu'il y aurait, j'emploie le conditionnel, des difficultés sur la réentrée, et puis il y a quand même des limitations sur la charge utile, la charge militaire qu'on mettrait sur ce type d'objet, mais je vais jeter un voile pudique sur les détails. Donc ça, c'est le premier point qu'il ne fallait pas oublier. Et le deuxième point... J'insiste, eh bien, ça ne remet pas en cause la capacité de frappe en second, dont bénéficie une puissance nucléaire crédible que sont les États-Unis, ou même comme nous, la France, avec nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, eh bien, ils ne sont pas vulnérables à ce type d'attaque.
Donc ça, c'est les FOB, mais donc il y a aussi autre type d'objets, ce sont les têtes manœuvrantes, donc en toute dernière phase. Donc qu'est-ce que c'est ?
Alors là, effectivement, on est aussi dans l'hypersonique, on est aussi dans la capacité à manœuvrer, mais les capacités de manœuvre sont bien moins grandes que les deux premiers objets dont on a parlé, que sont les planeurs ou les missiles à superstato. Alors, de quoi s'agit-il ? On a dit un missile balistique, en particulier à portée, enfin, toute portée, à une trajectoire extrêmement prédictible. Mais ça fait déjà quelques années que certains pays... ont mis des têtes capables de manœuvrer, ce qu'on appelle des MARV, Maneuverable Reentry Vehicle, qui permet deux choses. Soit d'augmenter la précision de notre missile, c'est-à-dire de pouvoir recaler en phase finale pour avoir une précision beaucoup plus forte qu'un missile balistique qui ne répond qu'aux lois de la gravité.
Et par exemple, sur un porte-avions qui serait en train de manœuvrer.
Par exemple. Et la deuxième raison, c'est tout simplement pour manœuvrer et puis pouvoir contrer un système de défense relativement rudimentaire, avec des guillemets sur cet aspect-là. Donc ces MARV, Maneuverable Reentry Vehicle, ce n'est pas nouveau. On se souvient des missiles Pershing 2 dans les années 80, établis par les Américains. Globalement, vous voyez une tête sur votre missile balistique avec des toutes petites ailettes. Alors là aussi, je fais ça très simple, mais c'est ce qui permet d'avoir un petit rebond en phase finale et pouvoir soit avoir un gain de portée, soit répondre aux deux caractéristiques que je viens de détailler. Ce qui est intéressant, c'est que ces objets qui sont déjà une gageure technologique, il y a de nombreux pays qui sont des puissances balistiques et essaient de s'en doter. Je pense notamment à l'Iran, notamment dans une fonction anti-navire, mais pas uniquement, ce qui est un véritable point d'attention pour nous, puisque, une fois encore, on n'est pas dans l'hypersonique manœuvrant, très manœuvrant, tel que je l'ai décrit tout à l'heure, mais en revanche, c'est déjà une véritable problématique en matière de vulnérabilité au niveau conventionnel en particulier. Vous avez d'autres pays que sont la Corée du Nord, par exemple. Les tests des 6 et 11 janvier 2022, eh bien, c'est au-delà du véritable planeur, eh bien, c'est plutôt ça qu'ils auraient testé, ce qui leur a déjà permis d'avoir un gain, une correction en latéral sur cette trajectoire d'environ 120 km et sur l'axe longitudinal un surcroît de 600 km de portée. C'est déjà énorme. Là encore, c'est une gageure.
Donc, pour le dire un peu plus clairement, ça veut dire qu'on peut tourner à gauche de 120 km s'il y a besoin.
Exactement. Donc, c'est déjà un véritable exploit qui était un point d'attention, mais on n'est pas dans... On n'est pas dans le niveau de sophistication technologique tel que pourrait l'être un véritable planeur ou a fortiori un super sato. Donc voilà ces deux petits objets hybrides. Je dis hybride, c'est le terme n'est pas forcément correct, mais qui rentre assez souvent dans le champ d'hypersonique dès lors qu'on en parle dans les différents articles de presse.
Donc c'est pas la grosse brique hypersonique nouvelle, mais disons c'est des petites améliorations.
Mais c'est un point d'attention.
C'est les petites améliorations qualifiables d'hypersonique sur des missiles balistiques ou des engins à fragmentation d'orbite qui existent déjà. Enfin, pas forcément enfin d'ailleurs, mais il faut maintenant peut-être passer à, après le glaive, le bouclier, c'est-à-dire est-ce que, puisque c'est évidemment une dialectique, avec une nouvelle menace vont apparaître des nouvelles contre-mesures en quelque sorte, mais justement où est-ce qu'on en est? Alors on mesure bien, on voit qu'il y a 2, 3, 4 grandes catégories qui rentrent dans l'hypersonique, donc puisque c'est des philosophies et des systèmes assez différents, on mesure que les contre-mesures seraient forcément aussi assez différents. Mais quand même, est-ce que pour chacun de ces objets, ou bon, même en général, il y a des pistes, ou même des programmes, ou même des équipements qui pourraient se défendre, enfin qui pourraient défendre une cible contre de l'hypersonique? Ou est-ce que, même avec toutes les limites qu'on a posées depuis tout à l'heure sur leur intérêt réel, on est quand même dans un monde où bah, si l'hypersonique ça marche, et c'est un grand si, mais si ça marche, c'est pour l'instant en tout cas relativement sans parade?
Alors aujourd'hui, on n'a pas de système qui nous permette de nous prémunir contre une menace hypersonique. Mais en fait, la seule question qu'il faut se poser, enfin pas la seule, mais une des premières questions qu'il faut se poser, c'est plutôt, mais est-ce vraiment la menace prioritaire aujourd'hui ? On a parlé tout à l'heure du fameux missile Kinzhal tiré le 19 mars 2021. On sait qu'une dizaine de missiles auraient été tirés, informations issues de sources ouvertes. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un Kinzhal ? Un Kinzhal, c'est un missile Iskander-M, qu'on a mis sous un MiG-31, donc un chasseur-bombardier russe assez gros.
Les Iskander, on peut dire, les Russes en ont balancé plusieurs centaines.
Voilà.
C'est à nouveau. Quoi.
Les Iskander, depuis le début du conflit, comme vous venez de le dire, les Russes en ont tiré plusieurs centaines. Et aujourd'hui, on n'a déjà rien qui nous permette de nous défendre contre ces missiles Iskander qui ne sont jamais, je mets bien des guillemets derrière tout ça, qui ne sont jamais que des missiles balistiques à courte, voire moyenne portée, enfin à courte portée, qui arrivent à des vitesses extrêmement élevées et contre lesquelles l'architecture de défense antimissile de l'OTAN en particulier n'est pas dimensionné. On n'est pas capable de se défendre, de se prémunir contre ça. On n'est pas non plus capable de se défendre contre des missiles de croisière subsoniques qui arriveraient en basse altitude. Parce que là encore, nos architectures ne sont pas dimensionnées contre ça. Donc il y a un véritable défi posé par les missiles balistiques de croisière, sans même parler des munitions maraudeuses et autres types de drones. Donc déjà, aujourd'hui, on est extrêmement vulnérable vis-à-vis de ce type de système.
Et pour se rendre un compte de la difficulté de ça, une image, c'est peut-être l'image de la guerre de Gaza, de l'aérodrome, donc il y a quelques mois, où, pour mesurer la difficulté que c'est d'intercepter un missile, même très simple, même très courte portée. On se souvient peut-être de ces espèces d'images très spectaculaires dans la nuit où on voit l'Iron Dome, on voit une roquette, enfin des roquettes tirées et l'Iron Dome, c'est-à-dire plusieurs dizaines de missiles, enfin d'intercepteurs qui vont en haute altitude et qui essayent de recalculer leur trajectoire pour intercepter. Et on mesure que c'est incroyablement plus difficile, rien que pour une roquette, hein, d'intercepter une roquette, c'est incroyablement difficile de calculer, de recaler les trajectoires. Donc c'est dire que si c'est si difficile pour une roquette qui va pas particulièrement vite et qui a quand même une trajectoire très prévisible, pour des missiles de croisière Iskander qui vont hyper vite et qui sont quand même nettement plus sophistiqués, déjà c'est une gageure incroyable de réussir à les intercepter.
Donc la question c'est comment est-ce que je peux me prémunir, quelle architecture de défense antimissile je construis pour être plus robuste, être plus résilient face à ce type de menace. Si on fait un parallèle avec les trois piliers de la défense antimissile dans la stratégie américaine, il y a trois axes d'effort. Le premier, c'est tout ce qui est défense passive. Défense passive, c'est pour nos architectures militaires, c'est plus de dispersion, plus de camouflage, plus de blindage. Mais ça coûte extrêmement cher. Et on ne peut pas tout protéger, ça n'aurait pas de sens, ni pas de cohérence financière, enfin pas de cohérence opérationnelle, et ça ne serait pas soutenable économiquement, dans la mesure où le ratio économique est largement en faveur des moyens offensifs par rapport aux moyens défensifs, comme vous venez de l'évoquer avec l'exemple de Gaza. Donc premier axe d'approche, la défense passive. Deuxième axe d'approche, eh bien, c'est la défense active, ce sont les fameux intercepteurs de défense antimissile. Donc là, effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, collectivement à l'OTAN, également pour le propre besoin américain sur le théâtre pacifique, et qu'on commence à se poser également en France, c'est comment est-ce que je monte en gamme en matière de défense surfacière de manière générale, de défense anti-missile, pour l'accompagnement de nos forces sur un théâtre donné, ou pour la protection de nos emprises, que ce soit nos bases aériennes projetées, nos bases aériennes, nos ports, etc., etc. Et là, il faut trouver le juste équilibre entre, justement, cohérence capacitaire et soutenabilité budgétaire, puisque ce sont des engins qui coûtent extrêmement cher.
Donc il nous faut que ce soit possible d'intercepter même un missile hypersonique en dernière phase.
Donc il faut qu'on puisse monter en gamme. Effectivement, on a nos industriels qui nous proposent différents types de solutions. Avant de rentrer dans le domaine de l'hypersonique, on a en France, par exemple, la modernisation de notre système Mamba, le système surfacère moyenne portée, avec des capacités pour contrer à partir de 2026-2025, en gros d'ici la fin de la décennie, des capacités pour contrer une menace balistique courte, voire début de moyenne portée, on va dire. Également les efforts de lutte anti-drone, mais on a, même si c'est là-dessus qu'il faut probablement se concentrer, la défense surfacière basse couche, l'accompagnement des forces terrestres, eh bien évidemment, il ne faut pas complètement négliger les menaces hypersoniques, y compris sur un théâtre d'opération. Et c'est à cette ONE qu'on a plusieurs projets qui pullulent à droite à gauche. Évidemment, aux États-Unis, les industriels américains proposent une modernisation de leurs capacités existantes, que ce soit des systèmes, on pense au missile SAD, qui est déjà en service, ou d'autres types de technologies, ou en Europe, avec le fameux projet Twister. Le fameux projet Twister qui est porté...
C'est un
qui
nom
est,
très poétique.
Un nom extrêmement poétique, effectivement, qui est un projet porté au Fonds européen de défense et qui a deux volets. Un premier volet, alerte avancée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la première chose à faire, c'est d'abord détecter, identifier. Je ne peux pas dissuader ou contrer ce que je ne vois pas. Donc c'est un volet qui est crucial. Et il faut que nous construisions nos architectures de détection et d'identification pour les rendre, j'allais dire en bon français, fit for purpose contre ce type de menace. Puisque je vous l'ai dit, nos architectures, elles ne sont pas jusqu'alors prévues pour détecter des objets entre la classe 20 et 60 km d'altitude. Premier pilier. Deuxième pilier, l'intercepteur. Et donc Twister propose pour un programme d'abord de recherche et développement, puis peut-être, qui sait demain, un programme d'armement, un engin capable d'intercepter de l'hypersonique manœuvrant. C'est un engin qui intercepte dans l'atmosphère, dans ce qu'on appelle le bas en dos atmosphérique, donc classe entre 20 et 30 km d'altitude, qui est un engin qui est composé de trois étages, un intercepteur, un stato au milieu et puis un booster en phase initiale qui permet justement d'avoir une réserve d'énergie pour contrer un engin qui lui aussi serait capable de manœuvrer. Donc dans cette dialectique moyen offensif, moyen défensif, on a des développements technologiques qui sont en cours, qu'il ne faut absolument pas balayer d'un revers de la main, sur lequel il faut porter une attention extrêmement forte, mais dont il faut prendre garde à l'effet fumigène, puisque comme la boucle est bouclée, il est essentiel également de se prémunir d'autres types de menaces contre lesquelles on est déjà démuni au niveau opérationnel aujourd'hui.
C'est-à-dire de ne pas dépenser des fortunes et des fortunes et des fortunes pour contrer un éventuel missile hypersonique alors qu'on n'est déjà pas capable de contrer un Iskander.
Voilà. Il faut développer ces briques techno, mais il faut bien serrer les problématiques et les priorités. Et c'est tout le travail de l'état-major des armées et de la direction générale des armements pour justement définir ces priorités et avoir quelque chose, j'insiste, je l'ai dit au moins à deux reprises, avoir un modèle de force dans ce domaine-là qui est cohérent opérationnellement et soutenable budgétairement. Et ça, c'est valable à l'échelle d'une nation et c'est valable à l'échelle d'une alliance, y compris à l'échelle de l'OTAN. Et c'est pour cela qu'on est extrêmement vigilant sur la liste des infrastructures critiques, par exemple, à protéger, car on ne peut pas tout protéger. Je n'ai pas encore parlé de défense de points et de défense de zones. Face à un moyen hypersonique, il est probablement extrêmement difficile de mettre en place une véritable défense de zone. Qu'est-ce que c'est une défense de zone ? C'est tout simplement une couverture géographique extrêmement large avec un certain nombre d'effecteurs qui resteraient limités pour protéger une emprise donnée. En revanche, une défense de point par rapport à une infrastructure qui est extrêmement critique, des lieux décisionnels, quelque chose qui peut concourir à la dissuasion nucléaire, par exemple, etc., etc. Eh bien là, il faut être que nous soyons en mesure d'avoir un système qui est capable de faire la défense de point.
On peut peut-être pas couvrir toute la Bretagne, mais par contre, si on peut couvrir les langues, peut-être.
Alors globalement, ça ressemblerait à ça. Et c'est là où il faut aussi casser une idée reçue. Aujourd'hui, effectivement, on n'a pas de solution capable d'arrêter un armement hypersonique manœuvrant. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des armements invulnérables, comme on peut le lire ici ou là, tout simplement, une fois encore, soit pour vendre des journaux, soit pour faire peur. Rien n'est jamais invulnérable, d'une manière ou d'une autre, et globalement, on peut définir des systèmes de défense terminale extrêmement, donc pour faire de la défense de point, qui seraient capables un jour, alors ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais qui seraient capables à un horizon 2040 ou autre, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une surprise, pour pouvoir contrer ce type de menace. Et de la même manière, les Américains portent leur effort contre la menace hypersonique sur plutôt le segment intermédiaire. Ils n'abandonnent pas la phase de vol finale, mais également la phase de vol intermédiaire. C'est justement quand ils sont en train de voler ou rebondir, avec des gros guillemets à chaque fois, sur la classe 30, 40, 50 km d'altitude, eh bien, ils développent leur architecture et leurs intercepteurs pour pouvoir essayer de les détruire dans cette phase-là.
C'est-à-dire c'est plus facile qu'au lancer, c'est compliqué parce que généralement, c'est au-dessus d'une zone sanctuarisée, donc ce sera difficile de les intercepter là. En phase terminale, c'est forcément compliqué aussi parce que c'est pour l'hypersonique et fait justement pour déjouer les contre-mesures là. Mais en revanche, sur la phase de vol, où ça pourrait être relativement prévisible, d'autant qu'on peut signaler que par exemple les superstato-réacteurs, enfin, du coup, ça brûle beaucoup d'énergie. Et du coup, d'un point de vue thermique, par exemple, c'est plus visible que d'autres missiles plus lents, et du coup, c'est plus facilement repérable.
Alors, de manière générale, ces deux objets, que ce soit les planeurs ou les superstatos, vu les vitesses auxquelles ils vont, sans même parler du superstato, hein, enfin, l'échauffement lié au Cyversato, ça va tellement vite que ça chauffe énormément. Donc l'architecture d'alerte avancée, sur lesquelles on n'est pas rentré trop en détail, évidemment, y a un fort volet détection infrarouge qui repose lui-même sur un très fort volet spatial. Dès lors que je parle d'alerte avancée, le segment spatial est prééminent. Donc dans tout ce qui est stratégie spatiale et stratégie de défense antimissile, eh bien les deux sont extrêmement liés, extrêmement intriqués, on le voit aux États-Unis. Alors en France c'est un tout petit peu différent, puisqu'on a été assez récalcitrant historiquement à rentrer dans le domaine de la défense antimissile. On n'a pas aujourd'hui en France de capacité antimissile propre, puisque pendant très longtemps l'argumentaire a consisté à dire « j'ai ma dissuasion nucléaire, donc cela suffit à contrer ce type de, à dissuader tout type d'attaque, tout type d'attaque qui pourrait toucher mes intérêts vitaux ». Et ça, ça reste vrai. En revanche, on est allé d'un rejet total à une acceptation progressive de la défense antimissile, notamment au travers des trois piliers de la posture de défense et de dissuasion de l'OTAN, qui, au sens dissuasion de l'OTAN, repose elle-même sur trois piliers. La dissuasion nucléaire, qui conserve sa singularité politique et stratégique, les moyens conventionnels, mais un système de défense antimissile. Donc à l'échelle d'un continent, eh bien évidemment, il y a un intérêt à développer une architecture de défense antimissile, une fois encore, avec ce juste équilibre cohérence capacitaire, soutenabilité budgétaire.
Mais donc, avec un système de détection avancé depuis l'espace, voilà, un missile hypersonique, c'est une espèce de boule de feu qui traverse l'atmosphère, ça se voit.
Ça se voit, effectivement.
Et enfin, justement, peut-être rapidement, mais ça pose une question d'équilibre stratégique, évidemment, les missiles hypersoniques. Parce que on mesure qu'en fait il y a plein de problèmes. Si on considère que la stabilité stratégique, c'est bon, évidemment la destruction mutuelle assurée, mais c'est aussi la prévisibilité, en tout cas la capacité à comprendre les intentions de l'autre, on mesure que l'hypersonique c'est un problème, tant à la fois parce qu'on mesure que c'est souvent des technologies duales, c'est-à-dire on peut mettre une tête nucléaire comme une tête conventionnelle, et ça évidemment c'est de l'incertitude, et de l'incertitude risque de produire une escalade toujours. Et puis, deuxième chose, c'est, on en parlait un peu au début aussi, c'est le fait que ce soit très manœuvrant, ça fait qu'on ne peut pas prédire la cible, ce qui fait qu'il peut y avoir un sentiment de vulnérabilité aussi, ou en tout cas de non-compréhension des intentions de l'autre, qui lui aussi peut mener à l'escalade. Donc on mesure que l'hypersonique porte un danger par la confusion, enfin par l'espèce d'obscurité que cette technologie porte, peut amener à des incompréhensions mutuelles et donc à des escalades incontrôlées.
Alors c'est effectivement une excellente introduction à la stabilité stratégique que vous venez de faire. Et pour y répondre, il y a les trois piliers de la stabilité stratégique. On ne va pas détailler la manière dont ça a évolué au fil du temps, puisque cette notion est apparue plutôt dans les années, pendant la guerre froide. Aujourd'hui, il y a les trois piliers. Et selon les trois piliers que l'on va considérer, on va pouvoir mesurer l'aspect déstabilisant ou au contraire neutre. Le premier pilier, c'est, et on l'a largement évoqué au cours de cette émission, c'est l'aspect stabilité stratégique nucléaire, la stabilité nucléaire. On l'a vu pour des raisons dialectiques offensives-défensives, aujourd'hui il y a peu ou pas d'effets, en tout cas tels qu'on les estime et on les entrevoit aujourd'hui. On ne peut pas dire que des systèmes hypersoniques sont déstabilisants, puisque aujourd'hui tous les moyens mis en œuvre garantissent entre grands tout ce qui est vulnérabilité mutuelle.
De toute façon, si on veut vitrifier quelqu'un, on peut le vitrifier. Exactement. À l'heure actuelle, c'est ce que ça veut dire. Ça changerait.
C'est ce que ça veut dire. Et comme je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, on pourrait même dire que ça a des effets positifs. C'est la position que l'on défend a priori en France, puisque en développant la SN4G, ça nous évite d'avoir à recourir à une attaque saturante et donc à multiplier le nombre de têtes. Premier pilier. Le deuxième pilier, c'est effectivement celui qui est plus sur une logique d'emploi, alors conventionnelle évidemment, ça peut être dual, on l'a dit, sur la nature de la tête, en particulier avec des pays qui ont des doctrines ambiguës comme la Russie et la Chine. Et là, la problématique de l'hypersonique, elle est tout autre, c'est qu'elle ne va pas créer de nouveaux problèmes, mais elle va venir les accentuer. On peut être face à un double dilemme. Le premier dilemme, c'est un dilemme d'interprétation. En effet, il y a une double ambiguïté qui est au niveau opératif ou opérationnel, on va dire, sur une logique d'emploi que posent les armements hypersoniques. Le premier, c'est effectivement l'ambiguïté sur la nature de la tête. nucléaire conventionnel, on vient de le mentionner. C'est pas du tout lié à l'hypersonique, ça. C'est lié justement à une doctrine. Donc je vais plutôt me concentrer sur la deuxième nature d'ambiguïté. Deuxième ambiguïté, pardon, c'est ce que l'on appelle l'ambiguïté sur la destination de l'arme. Vu que les trajectoires sont non calculables à l'avance, non prévisibles, eh bien on ne sait pas quel va être l'objectif qui est ciblé. Donc, premier dilemme, dilemme d'interprétation. Comment est-ce que j'interprète le missile, le planeur que je vois arriver bien souvent extrêmement tardivement vers mon territoire potentiellement? Le deuxième dilemme...
Et est-ce que je fais partir tous mes missiles?
Exactement.
Parce qu'il y a un planeur qui arrive et je ne sais pas où il va arriver, donc dans le doute, on va faire une contre-frappe.
Exactement. Donc vous anticipez sur le deuxième dilemme, qui est le dilemme de réponse. Comment est-ce que je réponds à ça? Est-ce que je réponds dans une logique conservatrice, en faisant confiance à mes moyens de défense passive et active, par exemple? Ou est-ce que je suis dans une logique de ce qu'on appelle en anglais « launch and warning », qui est d'autant plus problématique si j'octroie de très fortes délégations à mes commandements militaires, où là je peux rentrer dans une logique escalatoire où je vais justement tirer déclencher à mon tour une salve de missiles, et là les moyens hypersoniques, comme ils sont en haute valeur ajoutée, ils peuvent nous faire rentrer dans une logique de tout ou rien, où c'est globalement je n'ai pas envie de les perdre par le missile que je vois potentiellement arriver sur mon territoire, donc eh bien je vais les lancer, c'est la logique use it or lose it, je vais les lancer, je vais nourrir une logique escalatoire dont elle échappera probablement aux intentions initiales des belligérants, comme toute logique escalatoire non maîtrisée. Et donc ça, c'est un risque qui est porté par les armements hypersoniques, conventionnels ou a fortiori duo, de par cette double ambiguïté.
D'autant que, par ailleurs, vu que c'est hypersonique, on n'a pas bien le temps de réfléchir très longtemps.
Effectivement.
Donc ça peut encore augmenter cette instabilité.
Donc ça, c'est particulièrement prégnant, et il faut rester prudent sur l'effet que cela peut avoir sur ce pilier de la stabilité stratégique, mais il n'en demeure pas moins que c'est un point d'inquiétude, et que peut-être, de même que l'on en définit dans l'espace, il faudrait demain établir des normes de comportement responsables, avec toutes les réserves que l'on peut avoir sur le respect de ces normes, hein, par un compétiteur qui serait décomplexé et agressif, sur l'utilisation de moyens hypersoniques.
C'est-à-dire, on peut se faire la guerre nucléaire et terminer l'humanité, mais on va le faire poliment et avec des règles bien établies.
Disons que sur l'aspect nucléaire, si ça fait peur, c'est tant mieux. Parce que si ça fait peur, c'est qu'on n'est pas enclin, c'est que ça marche. C'est à la base de la dissuasion. Pour l'aspect emploi et conventionnel, évidemment, c'est plus problématique. Mais avant de partir au troisième et dernier pilier de la stabilité stratégique, il faut quand même insister sur un point. Évidemment, ces nouvelles technologies, elles amplifient des problèmes qui existent, mais la véritable problématique, elle est dans les doctrines. Elle est dans les doctrines d'emploi, les doctrines justement qui véhicule l'ambiguïté sur la nature des têtes. Donc c'est bien là où, sur lesquels il faut insister. Il ne faut pas confondre l'outil, moyen hypersonique, et l'usage qu'on peut en faire. Et c'est quelque chose qui est vrai, c'est vrai sur les drones, c'est vrai sur tout un nombre de technologies, mais souvent on focalise sur la technologie en oubliant que la clé reste dans les doctrines. Donc c'est bien il est important d'essayer de déchiffrer les doctrines, sachant que toute doctrine est faite pour être ambiguë et justement être interprétée. Donc c'est extrêmement problématique. Et le troisième et dernier pilier, évidemment, de la stabilité stratégique. On a vu le premier, la stabilité nucléaire, la deuxième sur ce qu'on vient de mentionner, et la troisième sur tout simplement la course des armements, qui est la plus connue. On voit qu'il y a une course, alors on en revient à notre quatrième grande fonction de signalement stratégique, et on veut montrer qu'on est dans la cour des grands, dans quelle mesure ça va nourrir un petit peu, à l'instar de l'initiative de défense stratégique de Reagan au début des années 80, ça peut nourrir la course aux armements entre grandes puissances. Donc là, il y a une véritable course aux armements, c'est vrai. Ce qui est faux, en revanche, c'est de dire que cette course aux armements ou cette prolifération, elle est globale et non maîtrisée. Il faut quand même être conscient du fait que ça reste l'apanage de quelques grandes puissances, la plupart d'entre elles étant déjà des puissances nucléaires, à l'exception faite de l'Iran, mais l'Iran, on n'est pas sur le développement de planeurs ou de superstato, on est sur des têtes manœuvrantes, donc un petit peu les engins hybrides qu'on vient de mentionner.
Ou du Japon aussi, qui n'en est pas du tout à avoir des missiles hypersoniques, mais qui est en train de développer les briques technologiques, notamment pour le ciblage, qui pourrait lui permettre à terme d'éventuellement en développer. Mais on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore. On vous mentionnait ces briques de ciblage. On peut également mentionner les démonstrateurs. Ce ne sont pas des programmes d'armement, là encore. Mais les démonstrateurs qu'ils ont malicieusement dévoilés, que ce soit avec un superstato ou un programme de planeur. Voilà, on verra vers quoi. Ils se donnent les moyens technologiques pour être au seuil et, le cas échéant, le transformer en programme d'armement s'il devait en prendre la décision politique. On peut également mentionner l'Australie, qui, dans la perspective AUKUS, participe auprès des Britanniques et des Américains un programme de superstato et de missiles hypersoniques pour la décennie à venir. Voilà, il y a des pays comme ceci, mais voilà, ça reste quand même une grosse poignée, enfin, c'est une petite dizaine de pays avant que des proto-États ou des puissances régionales beaucoup plus modestes développent des moyens hypersoniques au sens de l'hypersonique manœuvrant type planeur ou au superstato, on en est extrêmement loin.
C'est pas à s'inquiéter d'un missile hypersonique des talibans tout de suite.
Après, on en est loin. Enfin, je termine juste en disant qu'effectivement, regardons les Américains, leur missile balistique aéroporté, la GM-183 Arrow. Ils ont essuyé, on parle des États-Unis, et ils ont essuyé plusieurs échecs au cours de l'année 2021 et de l'année 2022, trois d'affilée, ce qui a fait qu'au niveau budgétaire, dans l'exercice à venir en 2023, eh bien, le programme n'apparaît même plus en tant que programme d'armement. Il y a juste de l'argent, et les commandes ont toutes été annulées. On a de l'argent qui est injecté pour la recherche et du développement. Mais en revanche, voilà, on voit que même une puissance comme les États-Unis ont des difficultés à la mettre en œuvre. Donc, voilà, comme vous l'avez dit, avant que les Houthis, les talibans le IGS nous menace avec des moyens hypersoniques, nous en sommes loin. Donc, prenons garde aux déclarations LinkedIn ou autres articles de presse qui disent que nous rebattons les cartes de la sécurité mondiale et que nous sommes face à une prolifération non maîtrisée.
C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup, David Papalardo.
Merci, Alexandre.
Je vais signaler que, outre votre article, donc évidemment d'excellente facture, qui sera bientôt librement consultable, comme le sont d'ailleurs tous les exemplaires de Vortex, sur le site du CESA, on a d'ores et déjà un document qui est très accessible pour ceux qui voudraient creuser la question, qui est un briefing stratégique de l'IFRI, rédigé par Joseph Orotin, évidemment de DSI, qui est paru il y a un an à peu près, qui fait aussi tout à fait le tour sur cette question, même s'il date un peu plus, c'était évidemment avant tous les développements liés à la guerre en Ukraine, mais donc librement téléchargeable sur le site de l'IFRI. Enfin, juste une annonce rapide pour annoncer qu'on va donc tenter un exercice un peu particulier cette année à l'occasion du 14 juillet, donc la semaine prochaine quand cette émission sera diffusée. C'est-à-dire qu'on va s'essayer donc un commentaire du défilé, puis de l'événement en ligne, avec quelques habitués et amis du podcast sur Twitter Spaces. L'idée, c'est simplement que le 14 juillet, c'est en général un exercice un peu cadenassé sur les chaînes de télé en tout cas, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison à ça. Et puisque c'est un événement qui polarise un peu l'attention publique sur les armées, eh ben autant essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus détendu et vivant peut-être. Donc ça va être en quelque sorte un collimateur en live sur Twitter Space, donc qui se trouve être un outil qui marche assez bien, en tout cas j'espère, pour faire du son en direct et à plusieurs, avec l'idée que vous pourrez donc mettre la télé, couper le son et nous écouter commenter tout ça, peut-être avec un peu plus de blagues et de bonne humeur que ce que vous risquez de trouver sur les grandes chaînes, et peut-être un angle en tout cas un peu différent. Je le rappellerai évidemment la semaine prochaine, mais notez donc la chose dans un coin si ça vous intéresse, créez-vous un compte Twitter si vous n'en avez pas déjà, sinon ça va être compliqué évidemment, et on se retrouvera donc le 14 juillet pour suivre le défilé en direct. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, qui sont toujours les bienvenus, tout comme notes et commentaires sur Apple Podcasts ou sur SoundCloud. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.